Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les affiches montrent deux parents et leur fille d'une vingtaine d'années. Le texte dit « Non oppression, ici et là-bas, notre fille choisira ». La campagne de sensibilisation a été lancée en juillet 2015 par l'association Voix de Femmes et le ministère de la Santé. Juillet, c'est l'époque de l'année où les risques de mariage forcé sont les plus élevés pour les jeunes filles qui rentrent au pays pendant les vacances. À bientôt 20 ans, raconte par exemple Libération, Shaïma vit en France depuis plusieurs années. Elle vient de passer le bac et doit aller au rattrapage. C'est juste avant ses épreuves que sa mère, vers la mi-juin, l'envoie soudain en Algérie où elle est née. En arrivant, son passeport et sa carte de séjour sont confiés à un oncle. Elle est quasiment séquestrée. En tout cas, elle n'a pas le droit de sortir. Et c'est à ce moment-là qu'elle apprend qu'elle doit épouser un cousin, dont elle ne veut pas, évidemment. Suivie depuis plusieurs années en France par une éducatrice, Shaïma l'appelle la nuit, en cachette, pour lui dire sa détresse. C'est en voyant que sa fille commençait à avoir des amis, à plaire aux garçons, qu'elle avait envie de faire des études, que sa mère s'est décidée à tout arrêter pour, dit-elle, s'en débarrasser proprement. La mère ne semble pas avoir été très impressionnée par la loi française qui, depuis 2013, condamne à une peine de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende celui ou celle qui organise ou encourage un mariage forcé. Retour au pays, tout de suite dans les pieds sur terre, quand les vacances tournent mal, deux autres histoires dramatiques dans des pays qu'elles connaissent peu ou pas. C'est par Alice Milo, réalisé par Anne-Laure Chanel.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Eki Abadou et j'ai une sœur et j'ai quatre frères, dont Ange qui aurait 29 ans aujourd'hui. Alors mes parents se sont rencontrés en France, ils étaient étudiants. Mon père, lui, est ivoirien. Ma mère, elle est née au Cameroun. Sur mes frères et sœurs, on est trois à avoir visité le Cameroun. Moi, j'y suis allée quand j'étais nouveau-née pour être présentée à ma famille. Et j'y suis retournée pour mes 10 ans et plusieurs fois après. Et mon petit frère, malheureusement, lui, il y a été une fois et ça a été un aller sans retour. Il lui est arrivé quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, reste une interrogation totale. Mon petit frère, Ange Hanouman Ali, il est parti avec ma mère, c'était l'été 2009. Il y a été pour la première fois, il avait 20 ans, et il était très content d'y aller. Ils ont choisi Douala comme premier point de chute, et de là-bas, ils sont partis visiter l'un des frères de ma mère qui habite une ville qui s'appelle Konsong, qui est la ville où mon oncle réside avec sa femme, qui est de cette ville-là, Konsong. C'est au nord de Douala, 2h30, 3h de route, pays Bamileke. Ville, c'est un bien grand mot, c'est un village où il y aurait, selon les chiffres officiels datant d'il y a 3 ans, 3000 habitants. Et de là-bas, en fait, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, parce que... J'ai reçu un coup de fil le 16 septembre 2009, le pire coup de fil de ma vie. C'était un appel du Cameroun et c'était pas le numéro de ma mère. Et là, je tombe sur ma tante qui me dit « Ma petite, tu te passes ton oncle ». Et là, mon oncle me dit « Ma petite Lizzie, sois forte ». Et je commence à hurler « Qu'est-ce qui est arrivé à maman ?» Il me dit « Non, ce n'est pas ta mère. Ange n'est plus. » Et je me rappellerai toujours, en fait, quand il me parlait, je lui parlais et je courais. Et je criais, en fait. Je disais « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, en fait, mon oncle me dit « Il est tombé dans l'eau, tombé dans le fleuve Cam. » Et là, il me dit « Oui, un accident s'est passé, c'est très grave, il est tombé. » Donc, il fallait vraiment que je parte. Et donc, je suis allée au Cameroun pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, quoi.
«
J'ai été à 3 morgues de Douala où des corps avaient été retrouvés, puisque comme le fleuve arrive jusqu'à Douala, des corps ont été repêchés. Donc à chaque fois que le personnel soignant ouvrait les casiers réfrigérés, dans mon cœur, il y avait deux voix, en fait, dans ma tête. C'était pourvu que ce soit son corps, et comme ça, on continue à faire ce qu'il faut faire, un enterrement, etc. Et une autre partie, c'était pourvu qu'il soit pas dedans et qu'il soit retrouvé dans d'autres circonstances, qu'il ne soit pas mort. Donc c'est comme ça que j'ai vu pendant plusieurs jours des corps, et c'était à Douala, ça. Je retrouve ma mère, méconnaissable. Je pense qu'elle n'avait pas dormi pendant 5 jours, qu'elle était amaigrie. Et là, elle a commencé à me dire des trucs qui me faisaient peur. Je me demandais, est-ce que je suis pas en train de perdre ma mère dans le sens où elle va devenir folle? Elle disait qu'elle va retrouver Ange, qu'il a disparu, que les gens racontent des histoires, qu'il est tombé dans le fleuve, qu'ils arrêtent de mentir. Elle va retrouver le petit. On lui raconte des histoires. Je lui ai dit, bah, tu sais, je compte aller au village. Et elle voulait pas. Elle m'a dit, tu vas surtout pas là-bas, tu vas pas au village. Mais je suis allée au village, je suis allée au village toute seule. Donc j'arrive dans ce village Konsung, en bus. C'est pas un village avec des immeubles, c'est vraiment beaucoup de petites maisons. Vous avez la forêt que vous pouvez voir à droite, et en marchant dans des chemins difficiles, vous pouvez arriver au niveau d'un fleuve. La première maison où je vais, c'est celle de mon oncle. Quand j'arrive sur place, je suis reçue par Adeline, ma tante. C'est elle qui m'explique qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Le fait que mon frère soit venu uniquement en visite pour une journée, il devait repartir à Douala le soir même, et qu'il ait disparu, en fait, ça l'embarrassait beaucoup. Alors, ma mère me dit que mon frère s'ennuyait et il est parti déposer des consignes. Consigne quand on boit des jus de fruits frais en Afrique en bouteille pour recevoir de l'argent, on doit ramener les consignes chez le boutiquier, comme on appelle ça là-bas. Donc ma mère a vu mon frère en partance pour le boutiquier qui n'a jamais vu mon frère. Le boutiquier n'a jamais vu mon frère. Il a disparu à partir du moment où il a quitté cette maison. C'est comme si vous faisiez, je ne sais pas, 200 mètres. Comment on peut disparaître sur 200 mètres et que personne ne sache rien? Ensuite, ma tante, c'est elle qui m'amène vers plusieurs témoins. Mais chaque témoin, c'était de pire en pire dans l'absurdité des propos et l'absurdité des versions. Mon frère se serait suicidé devant tout un village. Pour moi, c'est inimaginable, incompréhensible. On peut pas quitter Paris pour aller se suicider jusque au Cameroun en emmenant sa mère avec soi. Et c'est de là que j'ai demandé à voir où était le lieu, s'il y avait des témoins. Et elle m'a emmené chez différents témoins. Elle m'a emmené dans la maison d'une dame qui a prétendu avoir vu mon frère le 15 septembre, donc un jour après qu'il ait disparu, que l'alerte ait été donnée. Mon frère serait réapparu, comme par magie, avec des vêtements complètement trempés, apeurés. Il était apeuré de quoi? Qu'est-ce qui lui faisait peur? Et on lui a dit, mais ce n'est pas toi, le jeune qu'on recherche partout. Comment tu t'appelles? Tu ne viens pas de France? Et là, soi-disant, il regardait avec des yeux révulsés et il disait, non, je ne veux pas qu'on me retrouve. Et la dame a fait, non, ne pars pas, ne pars pas. Et il aurait couru, selon elle, en faisant des bonds. C'était pas une course normale, il faisait des bonds de 2 mètres. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et je lui ai dit, vous êtes vraiment sûre? Je lui ai montré les photos. Elle me dit, oui, c'est lui. Il était mouillé, avec les yeux révulsés. On a eu très peur. Et ensuite, quelqu'un a donné l'alerte parce qu'il aurait été vu près du fleuve. J'ai demandé à ce qu'on m'amène exactement à l'endroit. Et là, elle me dit qu'il était de dos, que tout le village criait. Et elle me disait, on a essayé de lui donner la main. Attrape la main, viens, ne te jette pas, petit, ne te jette pas. Et il s'est jeté. Non, mais sincèrement, ça fait rire. Faut arrêter de mentir comme ça. Je me suis demandé si les gens étaient payés pour me raconter des mensonges. La chose la plus plausible, c'est que mon frère aurait été agressé et dans l'agression, peut-être tué, peut-être un homicide involontaire, j'en sais rien. Il avait un très joli portable pour l'époque. Son portable a sonné pendant au moins 3 jours. Ce qui fait qu'on s'est dit, est-ce que quelqu'un n'y a pas volé son portable? Il se serait débattu, parce que même s'il était gentil, c'est pas quelqu'un qui aime se laisser faire. Donc si on essaie de lui voler quelque chose, il va essayer de se défendre. Et peut-être en essayant de se défendre, ça peut mal tourner, surtout si on tombe sur plusieurs personnes. On peut imaginer plein de choses, mais pas le suicide. Et on n'a jamais rien retrouvé, ni son portable, ni les vêtements qu'il portait, des vêtements de marque, ni la casquette qu'il pouvait avoir. Nous n'avons rien retrouvé de tout ce qu'il avait sur lui. Et quand j'y suis allée, ben, j'ai vu, j'ai vu une bande de menteurs dans ce village qui s'appelle Konsung. Les gens savent ce qui s'est passé. Il y a une omerta. Les gens ne disent pas la vérité. J'en suis sûre. Mais vu que c'est un village qui fait même pas 3000 habitants, il y a forcément plusieurs familles qui seraient impliquées et qui étoufferaient l'affaire. Ça, c'est quelque chose qui peut être une piste. C'est pour ça que j'ai porté plainte pour homicide et séquestration. Mon frère... Il n'a pas été recherché activement. Il y a des choses qui ont été faites. Le fleuve a été fouillé. Il n'a jamais été trouvé. Et la France me dit que le dossier va être classé sans suite car elle est prête à faire une commission rogatoire internationale. Elle est prête à envoyer des enquêteurs au Cameroun. Mais le Cameroun étant un pays souverain, elle ne peut pas l'envoyer sans l'autorisation du Cameroun. Or, le Cameroun n'aurait jamais donné d'autorisation. Mon trajet retour en France est flou, dans le sens où j'ai senti que je n'avais pas rempli pleinement ma mission. Elle était de revenir avec mon frère, mort ou vivant, mais revenir avec lui. On ne sait pas à chaque anniversaire de sa disparition, qu'est-ce qu'il faut faire, allumer une bougie, faire une prière. J'ai eu droit à toutes sortes de commentaires, j'ai eu droit à... Mais t'as encore de l'espoir, parce que franchement, ça me semble cuit là, hein, après tant d'années. On m'a tout sorti. Il n'avait pas envie de rentrer, il est parti visiter un autre pays, il a été enrôlé dans Boko Haram. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit ? On m'a tout dit. C'est comme si je devais vivre en étant imputé de quelque chose. Donc quand on est amputé de quelque chose, on continue de vivre, mais on vit différemment, on vit moins bien, on fait moins bien certaines choses. Donc il y a des choses que je vis pas toujours bien. Dans les mois qui ont suivi la mort de mon frère, à chaque fois que je prenais l'avion, je fondais en larmes parce que l'avion me faisait penser au ciel. Donc est-ce que mon frère était au ciel ? L'avion me faisait penser à ce voyage pour aller au Cameroun. Donc j'avais des angoisses inexplicable quand je prenais l'avion. Et puis le traumatisme n'est pas que pour moi, même mes frères et sœurs aujourd'hui, les 3 derniers, n'ont jamais mis les pieds sur le continent africain, quoi. J'ai un de mes frères qui m'a dit « Mais aller en Afrique, pourquoi ? Pour mourir ?»
En France, de parents d'origine malienne qui sont arrivés tous les deux très jeunes en France. Ma mère, elle est venue en France un peu plus tard quand mon père l'a épousée, donc ça s'est passé comme à l'ancien temps. On lui a envoyé une photo à mon père de ma mère, ils se sont mariés, elle est venue en France, ça se passait très bien. Mon père travaillait à Renault, ma mère aussi, mon père en tant qu'électricien et ma mère en tant que femme de cuisine. J'ai 4 sœurs et un frère. Mon père, comme il était bon, je dirais, très francisés. On parlait français à la maison. Et nous, on a appris notre langue en allant souvent en vacances chez la sœur jumelle de ma mère, qui, eux, parlaient que le dialecte bambara. La première fois que j'ai été au Mali, c'était en 81. J'avais 4 ans. Il y avait ma grande sœur, ma petite sœur et moi, plus ma mère. Mon père n'était pas du voyage. Donc, on est arrivé à Bamako, chez une tante. Et on est ensuite parti à Kati, chez la sœur de ma mère. C'est un petit village où elle détient la maison principale. C'est la maison un peu où tout le monde passe. Il y a le grand marché juste devant. Quand on rentre dans la maison, il y a une sorte de grande cour où il y a beaucoup de passages. C'est pour nous qui sommes nés ici, c'est un peu moins bien, quoi. On est un peu dépaysés parce que il n'y a pas les toilettes modernes, les maisons sont un peu en terre. Mais au début, tout se passait bien. Je m'entendais très très bien avec la sœur de ma mère. Elle était très gentille avec moi. Et à peu près 2-3 jours après qu'on soit arrivé chez ma tante nous prend toutes les trois, ma grande sœur, ma petite sœur et moi-même. Elle nous emmène au marché. Elle nous dit qu'elle va nous acheter des bonbons. On voit qu'on dépasse le marché. On ne dit rien, on avance, on arrive dans une maison un peu plus loin. Et là, ma sœur part en première dans une chambre. C'était chacun notre tour. Donc après, on m'a amené dans la chambre. Et là, mes souvenirs sont que je vois ma tante à califourchon sur moi et elle me maintient les bras en fait. Je me rappelle lui crier dessus, l'insulter. Je me souviens être en train de pleurer. Je la détestais, quoi. Je voulais pas la voir. Elle pleurait. Hein. Et je me souviens avoir très très mal. J'ai une douleur atroce, mais je ne sais pas pourquoi. Je me souviens très bien que ma tante m'a fait du mal, mais quel mal, je ne sais pas. C'était le jour, en fait, de l'excision. Donc, j'ai pas de mots à cet âge-là, je comprends pas, en fait, à cet âge-là, parce que j'ai pas vraiment de souvenirs, là, aujourd'hui, de l'excision même. Je me rappelle pas de l'exciseuse, je me rappelle pas de son visage, je me rappelle de rien, mais je me rappelle que c'est ma tante qui m'a emmené. Et qu'après, ça a été très compliqué parce que je refusais d'aller aux toilettes. Et elles essayaient de me forcer et je pouvais me retenir pendant plus d'une journée. J'avais peur en fait parce qu'à chaque fois qu'on allait uriner, ça faisait très très mal. Donc moi, je me retenais et jusqu'à ça m'a fait une sorte de crise de tétanie où j'étais tendue, quoi. Donc là, ma mère a eu très 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 peur pour moi. Donc moi, à partir de ce moment-là, je voulais que plus personne m'approche. J'étais devenue vraiment sauvage. J'étais vraiment méchante avec tout le monde et personne ne pouvait m'approcher. Et on est revenu sur Bamako et après on est rentré en France. Quand on est rentré en France, mon père était pas du tout content parce qu'il voulait pas cette excision. Je m'en souviens parce qu'il s'est disputé avec ma mère. Il lui disait pourquoi elle est partie pour faire ça aux enfants. Quand on est en France, il faut pas faire ça. Mais la vie continue. On oublie, on se rappelle ou on se rappelle plus. Et un jour, vers l'âge de 15 ans, comme j'ai des petites douleurs pendant les règles, je décide d'aller voir pour la première fois une gynécologue qui m'a fait l'examen gynécologique normal. À la fin, elle m'a dit « Vous êtes excisée, est-ce que vous le savez ?» Je dis « C'est quoi l'excision ?» Elle m'explique en fait que c'est l'ablation des grandes lèvres et du clitoris. Et je dis, mais non, c'est pas possible parce que je m'en souviens pas et on m'a jamais fait ça. Elle m'a dit, ça devait être dans l'enfance. Au début, j'ai pas trop paniqué, mais je suis rentré chez moi et j'en ai directement parlé à ma mère. Et il y avait ma grande sœur. C'est elle qui a commencé à m'expliquer que oui, quand on était petit, on a été au Mali et on s'est fait exciser. Ma sœur, elle a vu l'exciseuse arriver avec une lame. Elle m'a dit, je savais quand ils sont venus te chercher qu'ils allaient te faire la même chose et elle criait, non, 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 ne l'emmenez pas, ne l'emmenez pas. J'étais très, très remontée contre ma mère. Je lui ai un peu mal parlé. Elle était très, très mal à l'aise, triste. Pour elle, c'était presque pas de sa faute. Elle était encore dans les coutumes maliennes. Elle a cédé, en fait, parce que tout le monde lui disait que si on laissait, si c'était pas coupé, ça allait se transformer en pénis. Et que tes filles n'allaient pas avoir de mari, tes filles n'auront pas d'enfants. Elle y a cru, et elle a cédé, et elle a fait l'excision. Pour moi, c'était pas possible de croire à de telles sottises, quoi. Mais pour elles, elles nous font du bien. C'est pas un acte de barbarie, pas un acte de cruauté, c'est vraiment pour notre bien. Le fait de ne pas avoir de clitoris en soi-même, ça ne me gênait pas, puisque je n'avais pas eu de relation. Je savais à peu près à quoi ça servait, mais pas vraiment, parce que chez nous, on ne parle pas vraiment de sexualité. Donc, ça ne me dérangeait pas plus que ça, mais j'étais très, très en colère contre ma mère de nous avoir fait ça. Et je l'ai prévenue que si elle faisait ça à la dernière petite sœur, je serais capable d'aller porter plainte. Bon, je ne l'aurais jamais fait, mais c'était vraiment pour qu'elle ne le fasse pas à la dernière des petites sœurs. Elle regrette vraiment de l'avoir fait, mais bon, voilà. J'ai commencé à sortir très jeune, vers l'âge de 15 ans. Je pense que c'était un peu aussi pour m'évader. J'ai eu beaucoup de petites amies, mais c'était juste des flirts. Je voulais surtout pas qu'ils me touchent. Je m'attachais pas, du tout, du tout. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon futur mari, le père de mes enfants. Et j'ai commencé à m'attacher à lui. J'ai repoussé le moment où j'ai eu une relation sexuelle avec lui parce que je ne voulais pas du tout avoir de relation sexuelle. Je pensais que ça allait me faire mal, je pensais qu'à la douleur. La première fois que ça s'est passé, j'ai pleuré, je peux pas trop expliquer pourquoi. Mon mari, je ne lui ai pas du tout parlé de l'excision. J'ai dû lui dire 2 ans après. Alors lui, il était content de ça, pour lui c'était grâce à ça que j'étais sérieuse. Ma vie sexuelle, moi, c'était à la demande. Je le faisais parce qu'il le voulait. C'était pour lui faire plaisir à lui. Mais moi, je n'allais jamais vers lui pour demander. Je me posais pas de questions de savoir si j'avais du plaisir ou pas parce que j'en avais pas. Pour moi, c'était quelque chose qui ne servait strictement à rien, à part faire des enfants. Mais juste après, quand je me frottais contre lui au niveau de l'ancien clitoris, la paroi, là, j'éprouvais un peu de plaisir. Je me disais, est-ce qu'il me trouve bizarre à faire ça? Mais voilà, c'était pas tout le temps, c'était de temps en temps, rarement. Un jour, je suis tombé sur un reportage où on parlait de la réparation de l'excision, que c'était réparable. J'avais jamais entendu parler de ça. C'était le docteur Foldes qui pratiquait une opération pour réparer le clitoris et les petites lèvres. J'en ai parlé à mon mari, qui était tout à fait contre. Il m'a dit non, t'as pas besoin, c'est pas la peine. Et donc, il voulait pas du tout. Je comprends pas, je lui dis, pourquoi ça te dérange? Il me fait, non, tu le fais pas. Lui, pour lui, dans sa tête, si je me faisais réparer, c'est que j'allais aller voir une autre personne, que j'allais le tromper, voilà. Donc, j'ai quand même été avec ma cousine, on a été aux 2 premiers rendez-vous, on a pris la date, et le jour du rendez-vous, j'ai annulé. Je pense que c'est à cause de mon mari. Je me suis dit, je suis avec lui, s'il veut pas, ça sert à rien. Il y avait mon mari, il y avait aussi, j'avais peur parce que moi, quand je voyais, c'est pas toutes les femmes, mais par exemple, quand j'allais au sport, des fois, et les femmes qui se déshabillaient, on avait certaines, les lèvres, ça dépassait. Et pour moi, ça, c'était impossible, quoi. Ça me dégoûtait un peu. Je me disais, c'est quoi ce qu'elles ont entre les jambes? Je me suis dit, ça va être comme ça ou pas? J'aimerais pas avoir ça, en fait. On est tellement habitué à être comme on est. Moi, c'est tout lisse, c'est nickel, je reste comme ça. Là, ça fait depuis le mois de juillet que j'ai été opérée. Ça s'est très bien passé. Et je l'ai fait, en fait, quand je me suis séparée. À ce moment-là, j'ai décidé enfin de faire l'opération. Quand j'ai fait l'opération, je venais de rencontrer quelqu'un. Donc j'ai dû avoir une relation avec lui il n'y a pas très longtemps, là. Il y a peut-être 1 mois. Je ne lui ai pas dit que j'ai fait la réparation. Et ça s'est très 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 bien passé. La première fois, j'ai pas ressenti grand-chose, mais c'était déjà beaucoup mieux qu'avec mon époux. Et ensuite, la deuxième fois, j'ai vraiment ressenti du plaisir, et plusieurs fois, en une fois, plusieurs fois. Et là, j'avais carrément envie d'appeler, c'est pas de sa faute, mais j'avais envie d'appeler mon mari et lui dire, t'étais vraiment un nul, hein, quoi. Mais bon, voilà, c'était. Ouais, franchement, là, ça se passe très, très bien et j'éprouve du plaisir. À l'époque, quand j'entendais une femme faire trop de bruit ou crier, je disais, mais c'est quel cinéma qu'elle nous fait, quoi. C'est n'importe quoi. Et ben là, j'ai vu que ben, je pouvais pas me retenir, quoi. Donc, ouais, c'est une sensation que j'ai jamais eue. C'est des frissons. On est déconnecté pendant un moment, quoi. Quand je pense que j'ai loupé ça jusqu'à mes 40 ans, c'est grave, quoi. Donc, chacun a droit au plaisir comme il le veut et comme il le souhaite. J'ai plus les blocages que j'avais avant, les tabous que j'avais avant. Maintenant, c'est, je pense vraiment à mon plaisir, à moi, au partenaire aussi, mais d'abord moi maintenant. Et je suis vraiment heureuse. Et juste le fait, même sans la relation sexuelle, le fait de savoir que je suis réparée et que je suis comme tout le monde, c'est un plus.
Tou manake kalan na sininye sigi tou manake kalan Ali be balamba fe yalla telela dumuni ninina Ali be balamba fe yalla zura dumuni nini Magua ha 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 no Kalana sininye sigi tou manake kala Abe balomba fe yala yala Mani abe balomba fe yala Abe yala yala o mani
C'était Retour au pays, un reportage d'Alice Milo réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à la clinique Saint-Germain du docteur Foldès, à Frédéric Martz, à Amina Aïka et à Assatou. Jeanne Delecroix s'est attachée de production des Pieds sur Terre et Camille Richir, c'est notre stagiaire.
Mania fama bara soro Walo babe jagoni na Dagani dobe sinfe dobe sinna Lakoni sarama soro Mania goena Abe yala, 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 la bolomba fe mangoro jago, fembe be bolomba fe sunyali be dibe.